Donc pour mon exposé, j'ai choisi de vous présenter le texte The Sublime Is Now de Barnett Newman. Donc Barnett Newman est né en janvier 1905 à New York et il est mort en juillet 1970 à New York d'une crise cardiaque. C'est un fils d'émigrés juifs polonais. C'est un peintre critique d'art et il commence sa carrière d'artiste dans les années 40. Et il va devenir un des plus grands peintres du mouvement impressionniste abstrait. Et son œuvre la plus connue est The Stations of the Cross, qui sont une série de tableaux en noir et blanc. Donc l'impressionnisme abstrait, c'est un des premiers grands mouvements artistiques américains qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale. Les artistes travaillent avec des aplats de couleurs vives, ce qui va supprimer la profondeur de leur toile. C'est une nouvelle forme de peinture dans laquelle ils s'expriment par le geste, la couleur et la matière. Il y a deux formes d'impressionnisme abstrait, ou deux techniques. C'est le color field, donc c'est le fait de faire des aplats de couleurs, et l'action painting, donc de représenter une peinture en mouvement ou représenter le geste. Et Newman va inventer les zips, qui sont très importants. C'est des coupures verticales qui traversent les plans de couleurs pour le color field. Le terme impressionnisme, il vient du mouvement français impressionnisme. Et la référence première des impressionnistes abstraits, c'est Monet. Surtout avec les œuvres Les Nymphéas. Chez Monet, on peut voir un début d'abstrait dans ses tableaux, avec l'esthétique et le mélange des couleurs qui en font un paysage très flou et presque abstrait. Mais il y a aussi une idée que Monet va mettre en place et qui va ensuite être reprise et nommée le « all over ». C'est de faire des tableaux que l'on ne peut pas voir d'un coup ou... On ne peut pas avoir une vision d'ensemble de ces tableaux car ils sont trop longs. C'est des tableaux qui font souvent le tour d'une pièce. Et donc ça les rend abstraits parce qu'on est juste confronté à des détails et on ne peut pas avoir une vue d'ensemble de ces tableaux, donc ça les rend abstraits pour le spectateur. Et cette envie de représenter l'abstrait chez les impressionnistes abstraits viendrait du fait que c'est un mouvement qui réunit beaucoup de peintres américains juifs. Et dans la religion juive, on ne peut pas représenter la religion ou Dieu. Donc il faudrait passer par l'abstraction. Par exemple, dans les tableaux, justement, The Stations of the Cross de Newman. Donc c'est des tableaux religieux qui font référence à d'anciens... tableaux religieux, mais cette fois-ci qui sont abstraits et qui sont représentés par des aplats de couleurs. Donc la religion n'est pas représentée directement. Et les peintres américains de l'après-guerre vont donc s'inspirer de l'art européen ou occidental pour se le réapproprier. Car il y a vraiment une envie d'hégémonie américaine sur l'art. Ils veulent reprendre le pouvoir face à la culture occidentale qui est prédominante. Ils veulent créer l'art du nouveau monde, car l'art de Monet, il est tourné vers une histoire occidentale. Il est vu comme un art bourgeois tourné vers le passé, tandis que les Américains représentent l'homme nouveau et libre. C'est le potentiel des grands territoires, c'est la conquête, c'est la modernité. Et ils doivent se trouver un sacré... qui leur est propre, et ils doivent se séparer des Européens. Donc, le texte The Sublime Is Now a été écrit en 1948, et Newman va donc faire un manifeste de ce mouvement impressionniste abstrait, et il va redéfinir l'art moderne. Donc, Newman dit dans son texte que il y a une vision de l'art qui s'est créée à la Renaissance, qui est supérieure à l'homme et qui fait du sublime quelque chose d'extérieur et de transcendant à l'homme, quelque chose de sacré. Et il dit justement que les sociétés et la peinture n'a pas réussi à se détacher de cette vision qui est née, enfin qui s'est renforcée à la Renaissance, de cette vision du sublime et de la beauté dans l'art. Et il va dire que, enfin Michel-Ange, il va dire que Michel-Ange, à son époque, avait commencé à protester cette vision de l'art, mais que à son époque, la peinture n'était pas encore prête à atteindre cette nouvelle vision de l'art qui était égale à l'homme et inspirée de l'homme. Donc, c'est-à-dire puiser des sentiments humains et non supérieurs à l'homme. Et il va justement dire que ça ne sera qu'à partir des temps modernes, donc avec l'art contemporain et les impressionnistes, qu'il va y avoir un certain dégoût de cette vision du sublime, et que justement les impressionnistes vont essayer de détruire complètement cette vision de l'art et de créer quelque chose d'égal à l'humain et de puiser des sentiments humains. Mais le seul problème, c'est que ils n'ont rien créé d'autre pour concurrencer en fait cette vision. Et donc ils sont en quelque sorte bloqués dans un cadre de cette culture et de ces valeurs occidentales. Et en fait, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et donc, ils vont juste. Enfin, Newman dit qu'ils vont juste réussir à décaler des valeurs sur une autre forme d'art, mais qu'ils ne vont pas réussir à créer un substitut de cette vision de l'art. Donc, ça ne va pas. Qu'ils n'ont pas réussi à révolutionner, en tout cas, l'art. Il parle aussi du cubisme et du dadaïsme, en disant que justement. Il est assez sévère avec le dadaïsme, car il dit que le dadaïsme a juste réussi à remplacer le velours de la Renaissance par du papier journal, et que ils n'ont rien révolutionné, à part peut-être le fait d'avoir mis le papier journal à une place plus digne dans l'art qu'il n'avait avant. Donc c'est assez sévère. Il dit aussi que Picasso et Mondrian n'ont rien créé et n'ont pas pu faire avancer l'art, car ils étaient trop influencés justement par cette vision de l'art, et ils n'ont pas réussi à créer quelque chose d'autre. Donc maintenant j'ai choisi de présenter plus précisément l'extrait qui se trouve aux pages 200 et 201 du manuel. Donc il dit: privé de tout fond de sublimité, l'art moderne a été incapable de créer une image nouvelle du sublime, aussi bien que de se dégager de l'imagerie héritée de la Renaissance, des formes objectives, sinon par leur distorsion et leur complète dénégation dans un monde évidé de formalisme géométrique, pure rhétorique de relations mathématiques. Il s'est empêtré dans un conflit sur la nature du beau, à savoir si le beau est dans la nature ou susceptible d'être révélé sans la nature. Donc là, on peut voir que justement, il dit, c'était l'idée qu'on avait développée, qu'il dit que l'art moderne n'a rien créé, et donc il n'est pas capable de se dégager de l'héritage de la Renaissance. Ou il parle de certains. Peut-être de l'art moderne qui justement essaye de s'en dégager, mais comme il n'a rien pour concurrencer cette vision, devient quelque chose de vide, de sens, et qui n'est plus que juste des relations mathématiques. Donc il dit justement que l'art moderne s'est empêtré dans un conflit sur la nature du beau. Donc il dit que l'art moderne en fait s'est perdu dans un conflit sur la nature du beau, au lieu de justement essayer de renouveler cette vision. Et justement dans sa construction, à savoir si le beau est dans la nature ou susceptible d'être révélé sans la nature, ça montre que c'est des questionnements pour lui qui paraissent complètement vides de sens et vides d'intérêt. Et justement, immédiatement après, il dit « Je suis persuadé qu'ici en Amérique... » Donc il est très direct dans son texte. On peut voir que c'est vraiment une argumentation extrêmement directe. Certains d'entre nous, libres du poids de la culture européenne, sont en train de trouver la réponse en refusant totalement à l'art d'avoir à se soucier du beau et de sa visée. La question qui surgit à l'heure actuelle est de savoir comment, si nous vivons une époque sans légende ni mythe qui puisse être dit sublime, si nous refusons tout caractère d'exaltation à de purs rapports, si nous refusons de vivre dans l'abstraction, par quels moyens pouvons-nous être en train de créer un art sublime ? Donc il dit que les Américains, comme bah, ils ne sont pas européens, ils ont la possibilité de se libérer de la culture européenne et que qu'il faut totalement refuser l'idée du beau ou de sa visée. Donc il pose une question rhétorique, justement, en disant que ils ont besoin de se créer leur propre mythe et leur propre légende, donc se créer une identité américaine, en se détachant de l'histoire occidentale, et qu'ils ont besoin de l'abstraction, justement, pour créer un art sublime qui est le leur et qui n'est pas écrasé par la vision européenne. Donc il dit « Nous réaffirmons le désir naturel de l'homme pour l'exaltation, pour un souci de notre rapport aux émotions absolues. » Donc il dit qu'il ne veut pas faire un art qui est supérieur à l'homme, mais qui justement représente les sentiments de l'homme, qui puise dans les émotions intérieures et qui représente en fait un retour sur nous-mêmes, et non pas sur une vision sacrée du sublime qui est supérieure à l'homme. Et il dit « Nous n'avons nul besoin des accessoires désuets d'une légende démodée et caduque. Nous créons des images dont la réalité est évidente d'elle-même et délestée de ses accessoires, de ce béquille évoquant une parenté à l'imagerie démodée du sublime ou du beau. » Donc il est en train de dire que nous créons, donc justement eux, ils ont la capacité, les Américains ont la capacité de créer quelque chose de nouveau et qui est une réalité qui leur sera évidente vu qu'elle représente leurs sentiments et leur identité américaine. Et ils représentent cette vision du sublime ou du beau comme des béquilles sur lesquelles les sociétés et la peinture s'appuieraient, mais qui... Enfin, ça fait un peu penser à la métaphore de l'enfant qui a des roues sur son vélo et qui a besoin de s'en détacher pour pouvoir avancer tout seul. C'est un peu cette même idée, c'est le fait qu'ils ont besoin de justement de se détacher de ces accessoires désuets et de ces légendes démodées. Donc il est très violent avec cette vision européenne de l'art. Et justement, ils ont besoin de s'émanciper. Et il parle même d'une infirmité de la mémoire et de la nostalgie. Et qu'il faut absolument... c'est vraiment le mythe de l'homme nouveau américain qui crée, au lieu d'être influencé. Il dit... Au lieu de bâtir des cathédrales à partir de Christ, de l'homme, de la vie, nous les bâtissons à partir de nous-mêmes, à partir de nos propres sentiments. Donc là, il fait référence à une idée qu'il avait déjà commencé en début de texte, où justement il disait que à partir de la Renaissance, le Christ est devenu en fait quelque chose de supérieur à l'homme. et que justement ce sublime était devenu supérieur à l'homme et il ne devait pas être inspiré de l'homme, il devait être au-dessus. Et donc il dit justement, et donc les cathédrales devaient représenter donc ce côté sacré, sublime. Et il dit justement que là, il décide de faire des cathédrales à partir de l'homme qui doit puiser dans nos propres émotions et qui doit nous ressembler. Et justement, il disait que Michel-Ange a réussi à son époque à faire ça, mais que l'époque ne l'avait pas encore accepté. Et pour finir, il dit « L'image que nous produisons est celle, d'elle-même évidente, de la révélation, réelle et concrète, intelligible par quiconque la considéra, sans les nostalgiques besicles de l'histoire. » Donc là, il dit que ils vont produire une nouvelle image du sublime et de l'art, et qu'elle va être intelligible par quiconque la considéra sans les nostalgiques besicles de l'histoire. Donc on peut voir que intelligible par quiconque, ça fait référence à un art qui est accessible à tout le monde, qui n'est pas élitiste, contrairement souvent aux visions de l'art européen. C'est une vision très américaine du peuple. Et donc il utilise la métaphore des lunettes de l'histoire, donc comme si notre vision était floutée et que nous n'arrivions pas à passer au travers de de ces valeurs et de cette culture. Donc ça peut être comparé à un aveuglement peut-être. Donc dans ce texte, donc pour conclure, nous pouvons voir que ce texte est une argumentation très directe et très, très hostile parfois à certaines formes d'art. Newman affirme que l'art américain, donc l'impressionnisme abstrait, est capable d'inventer quelque chose de nouveau et de créer un sublime qui serait égal à l'homme et non supérieur à lui. Mais il affirme qu'ils vont réussir à créer quelque chose de nouveau et se détacher complètement de ce modèle. Mais on pourrait dire que dans l'art, il est difficile de se détacher complètement des modèles, car même si on décide soit de suivre un modèle ou d'aller complètement contre un modèle, le modèle existe toujours vu qu'on se construit contre ce modèle, donc il ne peut pas ne plus exister. Donc on s'en inspire quand même, même si c'est à contre-sens, on s'en inspire quand même. Donc il affirme qu'il peut s'en détacher, mais nous pouvons peut-être remettre cette idée en question. Et aussi, même dans le nom de leur mouvement, donc l'impressionnisme abstrait, on voit bien qu'ils s'inspirent justement de l'impressionnisme, et donc qu'ils s'inspirent d'un mouvement européen qui n'arrive pas à se détacher du cadre de ces valeurs et de cette culture. Donc nous pourrions nous demander si c'est vraiment quelque chose que l'impressionnisme abstrait a réussi à accomplir ou pas.